présentation. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc effectivement vous parler d'une figure très importante dans l'histoire du socialisme français, mais qui a eu longtemps une postérité, et puis dont le nom s'est un petit peu, un petit peu disparu ces dernières décennies. Alors je voudrais d'abord, si je puis dire, me justifier dans un premier temps pourquoi finalement avoir entrepris d'écrire un livre sur ce que tu as qualifié à juste titre de relatif illustre inconnu, parce que effectivement on peut habiter rue Jules Guesde, on peut avoir été dans une piscine Jules Guesde, éventuellement enfin, un gymnase, ce genre de choses, un collège, une école, surtout dans le nord de la France où il a été un élu important, j'y reviendrai tout à l'heure, mais finalement on sait relativement peu de choses de lui. On sait relativement peu de choses, surtout en comparaison avec l'autre grande figure du socialisme français de son époque. L'époque dont on parle, c'est le début du XXe siècle. L'autre grande figure, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès, là, on le connaît un peu plus, bien sûr. Il est mort assassiné le 31 juillet 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Et finalement, Jules Guesde, qui a joué un rôle important à ce moment-là, Jules Guesde est devenu ministre de l'Union sacrée, ministre sans portefeuille, mais symboliquement, c'était un des représentants du socialisme dans le gouvernement de l'Union de toutes les forces patriotiques en 1914. Eh bien, Jules Guesde, on le connaît effectivement beaucoup moins. Il y a plusieurs raisons à cela, je vais y revenir dans ma conférence, mais tout d'abord, parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement tout le monde le connaisse, je vais donner quelques éléments biographiques, et ensuite je rentrerai dans le détail, non pas de quelques éléments de sa vie particulièrement, mais de quelques éléments saillants qui nous permettent de comprendre les spécificités du socialisme français à travers Guesde et les héritages successifs. Et juste pour l'anecdote, puisque tu évoquais la possibilité que tout débat autour de Jules Guesde tourne, vire au congrès socialiste avec toute une série de débats, je signalerai juste quelque chose qui m'avait marqué, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette entreprise. C'est en 2014, vous aviez la commémoration des 100 ans, évidemment, du déclenchement de la Première Guerre mondiale et par conséquent de l'assassinat de Jean Jaurès. Et le 31 juillet donc 2014, donc plus d'un siècle après, Vincent Peillon, qui à l'époque avait été donc furtivement ministre de l'Éducation nationale et qui est un spécialiste de Jaurès, philosophe, avait donné une interview au Figaro qui était assez intéressante, où il disait finalement que la grande erreur du socialisme français, le grand problème, le problème des origines, c'était le fait que Jaurès se soit allié à Guesde à ce moment-là. Et chez Peillon, c'est une lecture très politique, bien sûr, c'est son rôle, c'est un homme politique, mais c'est quelqu'un qui est agrégé de philosophie, qui connaît bien tous ces débats. Il y avait l'idée que finalement, le problème, un des problèmes principaux du socialisme français, c'est d'avoir été lié à l'origine à une personnalité, à un courant, Guesde, qui est en gros, je vais y revenir, est l'introducteur du marxisme en France, et d'une certaine manière, le PS n'aurait jamais su ensuite se débarrasser de cette culture marxiste que Peillon, en 2014, jugeait encore encombrante. Donc, au-delà de l'aspect, il a un peu disparu de la mémoire, nous sommes historiens, nous cherchons à rentrer aussi, à remettre en selle un petit peu ce qui a été oublié pour restituer la vérité historique, il y a aussi des débats plus contemporains qui m'avaient motivé dans cette entreprise. Alors, Jules Guesde, qui est-il ? Jules Guesde est un homme qui est né en 1845 et qui est né en 1922. Les dates ne sont pas totalement anecdotiques par rapport à d'autres hommes politiques de l'époque, parce que c'est déjà une extraordinaire longévité. Si je prends l'exemple de Jean Jaurès qui est parallèle, Jaurès est né en 1859 et mort en 1914. Alors, je sais bien que Jaurès est mort prématurément parce qu'il a été assassiné, mais Guesde a déjà une longévité particulière. Et c'est un homme, Guesde, 45-22, vous inquiétez pas pour les dates. Il a traversé toute une série de grands événements de la seconde moitié du 19e siècle. Il a notamment vécu, à ce moment-là, il sera à Montpellier, donc en 1871, la Commune de Paris, dont il sera solidaire. Évidemment, juste avant la Commune de Paris, la guerre franco-prussienne, et à ce moment-là, c'était plutôt un radical, ardent patriote. Et puis Guesde va vivre ensuite les grandes heures du socialisme français. Quand je dis les grandes heures, c'est évidemment une appréciation positive de cela. Disons qu'il faut savoir une chose chronologique essentielle. 1905, c'est la création de ce qu'on appelle la section française de l'Internationale ouvrière, les origines du Parti socialiste. Le Parti socialiste prendra ce nom en 1971, congrès d'Épinay, nom qu'il a gardé jusqu'à nos jours. Mais le Parti socialiste, il est créé en 1905 autour de différentes sensibilités, dont celle de Guesde. Mais si vous prenez une généalogie antérieure, celui qui a créé la première organisation politique, on va dire structurée, hiérarchisée, qui d'une certaine manière fonctionne déjà un peu comme les partis politiques du XXe siècle, C'est Goethe qui a apporté sa contribution majeure en 1879 lors de la création du ce qu'on a appelé le Parti ouvrier, qui ensuite est devenu le Parti ouvrier français. Et ça, c'est très important parce que ce premier Parti ouvrier français, qui à l'époque est assez faible numériquement, peu implanté, est tout de même la première organisation d'inspiration marxiste-socialiste qui va naître sur le sol français. Il y a toute une série de courants, toute une série de divergences entre divers courants, donc on vient de le dire, mais Goethe, lui, son nom est accolé à ce Parti ouvrier fondé en 1879, qui a une spécificité. C'est que ce parti va se doter d'un programme juste après. Les considérants du Parti ouvrier français, 1880, et puis qui vont être modifiés un peu ensuite. Et ces considérants, les considérants, c'était à l'époque, il y avait toute une série d'entrées avant de développer le programme, considérant que les ouvriers sont exploités, considérant, je paraphrase, que la société n'est pas valable, nous allons faire ceci, cela. Voilà. Donc Goethe est dans ce dispositif-là. Et là où c'est important, et c'est effectivement lié au monde germanique qui a été évoqué en introduction, c'est que Goethe, pour élaborer ce programme, ça c'est un moment important qui va le faire rentrer dans la légende, si je puis dire, il va avoir Marx à Londres, Marx, donc le marxisme, qui donc meurt en 1883, donc à ce moment il est encore vivant, et il va co-rédiger ce programme avec Marx. Il y a d'autres personnes, je rentre par le détail, mais c'est très important, parce que si Goethe va être connu, reconnu et compté dans le socialisme français, c'est parce qu'il va être celui qui finalement a mis les mots de Marx pour la première fois sur un programme politique. Et c'est vraiment très important de dire ça, parce que dans l'histoire du mouvement socialiste avant la Première Guerre mondiale, là où le parti sera vraiment fort, c'est en Allemagne et en Autriche, c'est là rapporté à la société nationale concernée. Mais les premiers programmes vraiment d'inspiration marxiste en Allemagne, ce sera en 1891, le programme d'Erfurt, et ce programme sera en fait quand même inspiré du premier programme marxiste qui avait été élaboré du vivant de Marx, donc le programme du Parti ouvrier. Donc Goethe, si vous voulez, son nom est associé à ça, et son premier rôle historique, c'est cela. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique, mais c'est très important de le souligner. Ensuite, parallèlement à ça, Goethe, c'est un homme politique qui s'est professionnalisé, si je puis dire vite, c'était à l'origine un journaliste qui a écrit beaucoup d'articles. C'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de révolutionnaires de cette époque-là, qui veulent changer le monde. Ça a été un exilé longtemps, il a traversé plusieurs pays, dont l'Italie d'ailleurs, c'est là où il s'est lié avec sa femme, Costantini. Et donc, c'est quelqu'un qui va évoluer dans différents mondes et qui va finalement devenir ce représentant ensuite du marxisme en France dans les années 1880. Alors, un autre élément important pour cette histoire, et pour l'histoire de la vie politique française, c'est que au nom de Goethe, on accole le nom, l'adjectif guédiste, qui tout simplement veut dire partisan de Goethe. Ça, c'est important dans pour le vocabulaire de l'époque, parce qu'on peut le croiser assez régulièrement. Les guédistes, ça va devenir un courant assez visible. Enfin, je veux dire, Goethe, au début, c'est un révolutionnaire professionnel qui n'est pas si reconnu que cela. Puis, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il sera élu député, dire, voilà, il fait des interviews dans le Figaro, c'est quelqu'un qui a une visibilité nationale, voire même internationale. Et donc, ce Goethe-là, à l'origine, est un exilé qui a traversé plusieurs pays, qui a introduit le marxisme et qui a des relations avec toute une série d'hommes politiques à l'échelle internationale. Et il faut savoir une chose, donc ce vocabulaire, pourquoi on appelle ça les guédistes? Parce que fondamentalement, le projet de Goethe et de ses partisans, c'était d'installer un parti marxiste sur le modèle allemand en France. Ce projet-là ne va pas pleinement fonctionner, mais c'était le projet de Jules Goethe que de faire cela. Si on emploie aussi l'adjectif guédiste, c'est pour une autre raison. Goethe, d'une certaine manière, dans le socialisme français, c'est un des premiers à avoir, si je puis dire, une équipe de fidèles autour de lui, des sections socialistes un peu partout en France, pas partout, il y a une dimension géographique, par exemple les guédistes seront très forts dans le Nord, très forts dans certaines régions du Sud, dans l'Allier, voilà, il y a une géographie un peu particulière, mais les guédistes, c'est des partisans fidèles à leur chef Jules Goethe, et on leur a reproché, pas totalement à tort, d'être un peu une secte politique, avec un chef autoritaire, avec des militants très disciplinés qui lui obéissent, et incontestablement, il y a un peu de ça dans le guédisme, mais tout le personnage est là, déjà, d'une certaine manière, c'est à la fois quelqu'un de très autoritaire, qui va être raide par plein d'aspects, et qui en même temps a une capacité aussi à mobiliser beaucoup autour de lui, parce que c'est quelqu'un qui a, si je puis dire, les idées claires, qui a un marxisme assez dogmatique, assez connecté à quelques revendications immédiates, mais qui va parvenir aussi, parce qu'il est comme ça, à mobiliser un certain nombre de militants autour de lui et à créer un courant qui porte son nom. Donc ce courant guédiste, dans les années 1870-1880, marque de son empreinte le socialisme français. Il n'est pas hégémonique, il n'est pas seul. Je le disais, il y a des gens comme Jaurès qui vont être autour des socialistes indépendants. Vous avez une autre sensibilité qui sera incarnée par une figure qui s'appelle Édouard Vaillant, qui sera la sensibilité dite blanquiste, hein, du nom de Blanqui, un grand révolutionnaire du 19e, qui là est à plus une tradition insurrectionnelle, davantage connectée sur des problématiques anticléricales. Chaque courant a ses spécificités, mais tout de même, ce qui fonde l'identité du guédisme, c'est, quelle que soit la façon dont ils l'ont fait, eh bien, s'il y a un moment où on a introduit politiquement un vocabulaire marxiste dans l'histoire de France, eh bien, c'est à ce moment-là et autour de Jules Guesde. Alors, Jules Guesde, je le disais, c'est pas un théoricien, c'est un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui fait des centaines et des centaines de conférences, qui sillonne toute la France, qui fait de très nombreux meetings. Il était né à Paris et il va chercher à s'implanter politiquement, à se faire élire député. Guesde fait partie des gens qui ne considèrent pas que le Parlement, c'est la voie du changement social. Hein. À l'origine, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui mise davantage sur l'insurrection. Mais pour exister politiquement dans la Troisième République, il faut avoir un groupe parlementaire, se faire élire. Et donc Guesde, il y a à la fois cet aspect révolutionnaire, l'exilé, le marxiste, celui qui prône la lutte des classes. Et en même temps aussi, il y a l'aspect de devoir s'implanter dans la vie politique. Et la vie politique française, ça passe par notamment être élu au Parlement. Alors, l'examen de cette trajectoire est pas inintéressante parce que Guesde va tenter, de se faire parachuter dans plusieurs circonscriptions en vain. Il a par exemple essayé de se faire élire à Marseille en vain. Rigolez pas. Et puis après, il était dans le Nord. Il a suivi la trajectoire inverse d'un personnage politique bien connu aujourd'hui. Et là, il s'est fait élire dans la circonscription de Roubaix, donc la périphérie de Lille, et il a été élu, rebattu, etc. La première fois qu'il a été élu, c'est en 1893, et une date anecdotique, parce qu'en 1893, c'est la première fois que les socialistes de toute tendance, hein, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, ont un groupe parlementaire d'une cinquantaine de députés. Alors vous savez, à l'époque, c'est beaucoup moins rigide, fixé les groupes, enfin il y a une cinquantaine de députés étiquetés socialistes. Et là, c'est un séisme dans la vie politique française, parce que pour la première fois, il y a une visibilité au Parlement d'une grande partie des socialistes. Et donc Guesde, quand vous consultez la presse de l'époque, les archives, aussi les archives policières, hein, il faut le dire, à l'époque, ces gens-là sont surveillés d'extrêmement près, plus ou moins bien selon les périodes, mais pour la fin du 19e, c'est encore vrai. Lorsque Guesde est élu député en 1893, c'est un petit événement. Jaurès est lui-même réélu sur la même base que Guesde, c'est-à-dire la base du Parti ouvrier à l'époque, la base socialiste, parce que Jaurès, lui, venait du républicanisme plutôt modéré. Hein, alors. Et là, Guesde et Jaurès se retrouvent ensemble au Parlement, et ils sont à ce moment-là dans une forme de lune de miel, hein, ils se parlent beaucoup, mais il va y avoir un certain nombre de divergences qui vont se creuser, et c'est ces divergences qui sont intéressantes pour comprendre le processus qui va suivre. Car il faut bien comprendre une chose. En 1893, il y a un groupe socialiste parlementaire, il pèse, c'est la première fois, voilà. J'ai aussi été lire ce qu'on faisait peut-être moins avant. J'ai évidemment beaucoup lu la presse socialiste interne pour la comprendre, les tenants, les aboutissants, les congrès. C'est pas toujours formidablement excitant, mais enfin, ça fait partie du travail. Et aussi regarder, et là, je dois dire un grand merci à la préfecture de police parce qu'il le surveillait très bien à l'époque. Et en plus, il découpait tous les articles qui paraissaient sur lui dans toute la presse, toute sensibilité confondue. Donc un bon travail policier m'a permis de consulter tous les portraits qu'on fait de Guesde. Vous savez, ça m'a fait penser là, aux législatives récentes, vous avez tous les nouveaux députés, les nouveaux entrants, etc. Vous avez ce phénomène-là déjà sous la Troisième République. Et Guesde, ce qui est marquant, c'est que c'est quelqu'un qui, par exemple, avant, je vous l'ai dit, était un peu journaliste, un révolutionnaire professionnel, mais qui n'avait pas de métier fixe, qui était quelqu'un qui, par exemple, avait beaucoup de mal à subvenir à ses besoins élémentaires avant d'être élu député. Ça fait partie de ce que j'essayais de montrer à travers Guesde et son courant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se professionnalisent par la vie politique, qui ont tout donné à la politique, et le seul moyen qu'ils ont de vivre de ça, c'est tout simplement d'avoir une indemnité parlementaire. C'est vrai pour Guesde, c'est pas vrai pour tous les socialistes. Ça, c'est intéressant de voir Jaurès en miroir. Hein. J'essaie de faire aussi un portrait en miroir parce que Jaurès est beaucoup plus connu et compte tout autant. Jaurès, c'est un prof de fac. Hein. Jaurès, c'est un normalien agrégé de philosophie qui est très tôt professeur d'université et qui n'a pas du tout les mêmes difficultés matérielles que Guesde. Alors évidemment, on ne peut pas juste dire Jaurès est un peu plus modéré que Guesde parce que bon, il avait des conditions matérielles plus favorables. Ce serait un peu trop caricatural. Mais quand même, dans l'implantation et la définition du guénisme, il faut bien avoir cela en tête, que Gued est un homme qui vient de l'exil, qui a eu de multiples difficultés et qui, dont la radicalité politique vient aussi de cette situation. En tout cas, on peut le supposer. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre 1893 et 1905? C'est surtout de cela dont je voudrais vous parler maintenant, car je vous fais grâce de nombreux débats que j'ai traversés. Certains sont plus intéressants que d'autres et font un peu plus que sens pour l'histoire sur le temps long du socialisme. Alors, il y a plusieurs débats entre 1893 et 1905. Hein, je dis 1905 parce que c'est une grande date butoir, puisque là, c'est la création du PS unifié. Tout le monde va aller dans un même parti. Et ces débats ont un caractère inaugural parce qu'ils vont se reposer ensuite à plusieurs reprises dans l'histoire de la gauche française. Quels sont-ils? Alors, un des grands débats sur lequel je voudrais insister, c'est le débat sur le pouvoir, sur l'État et la participation gouvernementale. Car, je le rappelle, parce que ce n'est pas forcément évident, que lorsque les socialistes se constituent dans leurs différentes sensibilités, à part l'expérience qui a laissé plutôt des mauvais souvenirs de 1848, où par exemple vous avez des socialistes comme Louis Blanc qui ont participé au pouvoir, à part la Commune de Paris de 1871, mais qui s'est fort mal terminée et réprimée dans le sang, les socialistes, en tant que courant, n'ont pas encore exercé de responsabilité gouvernementale. Certains, d'ailleurs comme Gued au départ, ne le souhaitent pas. Ils misent sur l'insurrection, la révolution. Pour eux, l'histoire française, c'est 1789, 93, 1830, 1848, 1871, et la révolution doit arriver. On est député, on est élu, tant mieux, on peut se souvenir, mais c'est la révolution qui compte. Sauf que, à partir du moment où, même si vous conservez votre rhétorique révolutionnaire, vous avez une implantation parlementaire, eh bien, il n'y a pas besoin d'être un fin politique pour comprendre cela. Quand vous avez une cinquantaine de députés, vous êtes susceptible de peser sur la majorité du Parlement et on peut vous demander votre avis pour constituer une majorité gouvernementale. Et à ce moment-là, il faut dire oui, non ou courageusement s'abstenir, mais c'est un problème qui se pose à tout groupe parlementaire. Et donc, l'un des problèmes du socialisme dans ses multiples dimensions, ça va être de se poser le problème de quoi faire au Parlement. Encore une fois, au départ, pour Gued, c'est très clair. Lui, il dit, moi, je ne suis pas l'élu du Nord ou telle circonscription. Je suis le mandataire du prolétariat français, voire même du prolétariat international. Hein. C'est très important pour lui, l'internationalisme, à ce moment-là. Il est lié aux sociodémocrates allemands, j'ai déjà dit, c'est quelque chose d'important. Sauf qu'il va y avoir une crise politique en France. Car, pour ceux qui connaissent un peu cette époque, 1893, c'est certes les élections législatives, mais l'année d'après, c'est le début d'une grande affaire qui est évidemment absolument fondatrice dans l'histoire de la Troisième République, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, je n'ai pas le temps ici de restituer tous les épisodes de l'affaire Dreyfus, je vais simplement la remettre en contexte par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le rapport des socialistes à leurs contradictions et au pouvoir. L'affaire Dreyfus, vous le savez, c'est un capitaine de l'armée accusé à tort de trahison et de collusion avec l'Allemagne parce qu'il était juif. C'est donc une affaire, bien évidemment, extrêmement liée à la montée de l'antisémitisme de l'époque. Tout ça est très bien illustré. D'ailleurs, le directeur de la collection, Vincent Duclerc, est un des grands spécialistes de cette question. Quel a été le problème pour les socialistes français par rapport à la question de l'armée et de l'antisémitisme? Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je lis ces deux problèmes. Il y a, il faut bien le dire, chez un certain nombre de socialistes, comme dans une grande partie de la population française et des élites politiques de l'époque, un préjugé antisémite assez répandu, y compris chez quelqu'un au départ comme Jaurès, qui ensuite va devenir un grand défenseur de Dreyfus. Il y a donc une suspicion qui existe par rapport à cette propagation d'antisémitisme qui est incontestable et qui existe dans la gauche française. Mais le problème, qui n'est pas secondaire si je puis dire, mais un problème majeur aussi, c'est que Dreyfus était un militaire. Et un militaire, pour beaucoup de socialistes français à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? Notamment pour la génération de Gued. C'est important, les histoires des générations, parce que Jaurès, il était tout petit au moment de la Commune de Paris. Il avait 11 ans. Gued, lui, il était déjà dans l'action. L'armée, pour beaucoup de socialistes, comme Gued, mais aussi des militants de base, hein, l'armée, c'est ceux qui ont tiré sur les communards, sur la Commune de Paris en 1871. Ce sont des assassins. Et donc, défendre un militaire, pour beaucoup de socialistes, que l'on juge ça stupide a posteriori, c'est une autre question, ce n'est pas possible. Et donc, sur cette question de l'affaire Dreyfus, il va y avoir des positions divergentes sur l'attitude à adopter par rapport au sort du capitaine. Et quand Jaurès va effectivement se lancer, il va écrire les preuves en 1898, se lancer dans la défense du capitaine Dreyfus au nom d'un humanisme large, disant, voilà, il est attaqué en tant qu'individu parce qu'il est juif, on doit le défendre. Certains socialistes, dont Gued et Lafargue, qui est un de ses proches les acolytes vont juger, non pas parce qu'ils sont antisémites fondamentalement, je pense qu'il ne faut pas dire de bêtises, j'ai lu pas mal de rapports de police là-dessus, etc., si vous voulez, à côté de d'autres courants politiques français à l'époque, notamment à la droite, à l'extrême droite, ça n'a absolument rien à voir. Non pas par antisémitisme, mais parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas défendre un militaire et qu'ils sont attachés à une vision, on va dire, très orthodoxe de la lutte de classe, considèrent qu'on ne peut pas se lancer dans la défense du capitaine Dreyfus. Et ça va être un grand point de divergence qui va tout simplement, pardonnez-moi le vocabulaire familier, faire capoter la création du Parti socialiste qui aurait dû avoir lieu en 1899. Il y a un congrès qui réunit toutes les sensibilités socialistes et ce congrès, eh bien, va notamment échouer à cause du fait qu'on n'est pas d'accord sur l'affaire Dreyfus. Mais surtout, l'affaire de l'affaire pour les socialistes, c'est quoi ? C'est qu'il y a cette question de se positionner par rapport à l'armée qui est absolument essentielle, mais il y a aussi une autre question qui est que, qu'est-ce que c'est l'affaire Dreyfus ? C'est les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, et entre guillemets des anti-Dreyfusards de gauche, si je puis dire, comme je viens de le dire. Mais il y a surtout une droite nationaliste, pourrait-on dire, qui avant était boulangiste. À l'époque, vous avez des grandes figures connues. Hein. Bon, par exemple, celle qui va devenir vraiment connue encore plus ensuite, c'est Charles Maurras et l'Action française, qui mène tambour battant une campagne contre Dreyfus, par antisémitisme bien sûr, mais aussi une campagne dans une perspective de critiquer la République de l'époque, de critiquer dans une perspective même de la renverser pour certains, et donc il y a un danger anti-républicain assez large. Je reviens à mes socialistes. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Eh bien, ils ont la même divergence que sur Dreyfus. Certains socialistes vont dire, bon, la République, oui, bon, ça reste une République bourgeoise, après tout. Ce n'est pas la République pour les ouvriers, donc pourquoi vouloir la défendre ? Alors que d'autres, comme Jaurès, vont se dire, bien, si on peut sauver la République des attaques de l'extrême droite, c'est déjà pas mal. Je m'exprime de façon familière pour bien que vous me compreniez. Conséquence de ce débat, en 1899, une nouvelle majorité gouvernementale se forme autour de Waldeck-Rousseau, chef du gouvernement. Waldeck-Rousseau, c'est un personnage important. Hein. Beaucoup de gens, d'ailleurs, porteront le prénom de Waldeck de cette époque-là, comme le futur secrétaire général du PC, Waldeck-Rocher, hein, ça vient de ce moment-là. Waldeck-Rousseau réunit un gouvernement d'union large, et là je retombe sur mes problèmes de majorité parlementaire, et sollicite donc l'appui des socialistes pour être dans une majorité d'union des gauches, mais même un peu plus large, face au péril anti-Dreyfusard. Et sur ce point, conséquence de tout ce que je vous ai dit avant, les socialistes se divisent et l'emblème de ce débat, c'est à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai appelé aussi ce livre l'anti-Jaurès, point d'interrogation, parce que vous allez voir que c'est un peu plus compliqué après, c'est Guède contre Jaurès, et Guède et Jaurès exposent d'ailleurs ce qu'on a appelé leurs deux méthodes lors d'un grand meeting à l'Hippodrome de Lille en 1900. Et parmi ces deux méthodes, eh bien, il y a cette question qui, à l'époque, on appelle le ministérialisme, c'est-à-dire l'idée que des socialistes peuvent entrer dans une majorité parlementaire et donc envoyer des ministres. Et très concrètement, en 1899, il y a un ministre qui participe au gouvernement d'Union large, Alexandre Millerand, qui est, à l'époque, on appelle ça ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de l'Économie, qui est donné aux socialistes. Et c'est là-dessus que les socialistes se divisent amèrement. Guède refuse l'entrée de Millerand au gouvernement, Jaurès, lui, l'appuie, et donc ils ne s'arrivent pas à se mettre d'accord. Et si je puis dire, c'est reparti pour un tour dans la division socialiste. Il y a d'autres débats que je ne qualifierai pas plus de secondaire, mais que je ne peux pas rentrer dans tous les détails là. Il y a le débat sur la question des municipalités, qui n'est pas négligeable, parce qu'on sait que le socialisme français va être très municipal, et c'est d'ailleurs encore récemment là où il souffre le plus lorsqu'il perd ses positions. Lille est conquise par les guédistes en 1896, et ils ont un débat, les socialistes entre eux, sur l'utilité d'avoir des municipalités socialistes. Est-ce que déjà on peut faire du socialisme à l'échelle locale, les cantines scolaires gratuites pour les enfants, ce genre de choses, ou bien est-ce que c'est juste une étape, comment dirais-je, pour aller plus loin vers la construction d'un ordre nouveau ? Donc là aussi, les débats entre Guède et Jaurès se retrouvent sur ce point-là. Et encore une fois, ils les exposent à Lille en 1900, et Lille à l'époque, et bon, on sait que c'est resté d'ailleurs presque sans discontinuer une ville de gauche ensuite, Lille est l'emblème de ce débat entre Guède et Jaurès. Conséquence de ce débat, dans un premier temps, et c'est là qu'il y a une bataille vraiment entre, pas que Jaurès et Guède, mais enfin ils sont quand même l'emblème de cela, la bataille pour créer le Parti socialiste. Parce que, je remets dans le contexte international de l'Europe, Ceux qui dominent, je l'ai dit, ce sont les sociaux-démocrates allemands, qui dominent l'international socialiste. C'est le parti le plus puissant du monde, en termes de parti socialiste, rapporté aux pays concernés. Les sociaux-démocrates allemands dominent l'international et disent régulièrement aux Français « Nous vous aimons bien », je paraphrase aussi, hein, je fais un peu de la discussion imaginaire, mais enfin j'en ai beaucoup lu, donc je peux restituer un peu. « Nous vous aimons bien », mais enfin quand même, la France, c'est le pays de la 1789, des révolutions du 19e siècle, et c'est le pays où il n'y a que des petits groupes socialistes, parce que rapporté à l'influence nationale, à l'époque, c'est relativement faible, quelques dizaines de députés, mais ce n'est pas très important. Donc, unifiez-vous, quoi. On veut un parti socialiste unique en France. Et c'est très important de savoir cela, parce que qu'est-ce qui se passe à partir de 1900? Eh bien, en vocabulaire contemporain, on dirait qu'il y a une course de vitesse entre les deux sensibilités, qui, dans un premier temps, va se traduire par quoi? D'ailleurs, deux partis socialistes, alors ça, c'est des choses qui pourraient peut-être se reproduire. Il y a un parti socialiste de France, autour de Guède et un certain nombre de figures, et un parti socialiste français, autour des partisans de Jaurès, Millerand, Renaudel et quelques autres. Alors, tous ne sont pas d'accord, en plus, au sein de chaque parti, mais enfin, je vous épargne un certain nombre de débats, sinon on va jamais arriver au bout. Mais ce qui est significatif, c'est que ni l'un ni l'autre ne veut renoncer au nom parti socialiste. Vous avez le Parti socialiste de France face au Parti socialiste français. Et là, dans un premier temps, Guède va d'une certaine manière faire une erreur d'appréciation. Il va penser qu'il va pouvoir occuper l'hégémonie. Il va conquérir l'hégémonie sur les autres, qu'il va réussir à les grignoter et qu'il va progressivement arriver à convaincre les Allemands que le socialisme français, c'est lui et que celui qui restera l'emblème du socialisme français dans le socialisme international de l'époque, c'est Jules Guède. Ce n'est évidemment pas ce qui va se passer et je vais vous dire en quelques mots pourquoi. Mais quand même, il faut dire une chose, je le dis dans l'introduction, si vous aviez demandé à un socialiste de l'époque, et d'ailleurs à un journaliste, à quelqu'un qui suivait la vie politique de l'époque, en 1905, si Jaurès et Guède étaient plus... Jaurès ou Guède, l'un et l'autre étaient plus connus, il y avait une égalité. Les deux étaient deux grandes figures absolument fondamentales. Et Guède était d'ailleurs mieux connecté aux sociaux-démocrates allemands pour les raisons que j'évoquais au début de la conférence. Qu'est-ce qui explique qu'il va y avoir quand même un basculement? Alors, entre 1902 et 1905... il faut évidemment observer la situation gouvernementale, c'est le bloc des gauches, autour notamment du petit père Combes, dont le nom va être très associé à la politique anticléricale, et puis 1905, je vous dis, c'est la création du Parti socialiste, en mai 1905, mais c'est surtout, plus largement connu, la loi de séparation des églises et de l'État, dont vous savez qu'elle est encore en exercice malgré quelques modifications ensuite. Le gouvernement entre 1902 et 1905 est un gouvernement donc, qui mène une politique anticléricale, avec plus ou moins des variantes selon les périodes. Et un des grands débats de l'époque, c'est la question de la laïcité et du rapport à la question religieuse. L'Église catholique est extrêmement puissante et une partie des républicains fait de la séparation des Églises et de l'État un de leurs combats principaux. Question aux socialistes, est-ce que vous allez appuyer la démarche anticlérical et laïque, c'est pas exactement la même chose. Là aussi, il y a des nuances qui seraient importantes à préciser. Mais est-ce que les socialistes peuvent et doivent appuyer la politique de laïcisation en cours à ce moment-là? Et in fine, doivent-ils favoriser le vote d'une loi de séparation des églises et de l'État? Eh bien, là-dessus, encore, divergence entre Jaurès et Guède. Guède fait partie de ces gens qui pensent que c'est la lutte de classe qui prime avant tout et que la question des religions, etc., c'est un peu aller embêter les catholiques sur un certain terrain, c'est diviser le prolétariat autour de cette question, bref, passons notre chemin, si je puis dire. Alors que pour Jaurès, qui vient du républicanisme, comme je l'ai dit, la question de la laïcité est tout à fait fondamentale. Et d'ailleurs, la loi de 1905 est en partie l'œuvre de Jean Jaurès, de pair avec Aristide Briand. Donc il y a une divergence là-dedans, et il faut bien comprendre que la France, au même titre qu'elle a été clivée par le débat Dreyfusard-anti-Dreyfusard, est très clivée sur cette question de la laïcité. Et d'une certaine manière, Guède, sur ce sujet comme sur d'autres, va se retrouver progressivement, si je puis dire, à la marge de ce débat. Et comme il est à la marge de ce débat, il va conserver une influence non négligeable, et il faut le dire dès à présent, jusqu'au bout, Guède restera quelqu'un qui marquera profondément la gauche française de cette époque, mais il va perdre progressivement du terrain. Et une des raisons qui explique la plus grande emprise des thèses de Jaurès-Jaurésienne, c'est le fait que Jaurès a été Dreyfusard, le fait que Jaurès a été sensible à cette question de la laïcité, bref, sensible à un certain nombre de causes que Guède jugeait, si je puis dire, suspecte, car susceptible, trop de diviser le monde ouvrier. Mais j'y insiste beaucoup, Le rapport de force va être de plus en plus favorable à Jaurès, mais Guesde n'est pas totalement marginalisé. J'en veux pour preuve, justement, quand les socialistes se mettent d'accord enfin ensemble pour créer un parti unifié en 1905. Alors pourquoi se mettent-ils d'accord? Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi ils n'ont pas continué, après tout, à faire de multiples partis? Ils avaient chacun des élus, des permanents, un certain nombre de choses. Bon, d'abord, encore une fois, il y a le poids des sociaux-démocrates allemands qui insistent beaucoup. En 1904, il y a un congrès international qui se réunit et qui vote une résolution en disant « Maintenant, les socialistes français, vous vous mettez d'accord et vous créez un parti unifié. » C'est la raison pour laquelle le nom originel de parti socialiste est « Section française de l'internationale ouvrière ». C'est parce qu'il y a ce poids derrière de l'internationale qui est très fort. Qu'est-ce qui se passe en 1905? Il y a fatalement, si vous m'avez bien suivi, un compromis entre différentes positions. Ce compromis repose sur quoi? Il y a une phraséologie assez guédiste, marxiste, qui reste dans le Parti socialiste des origines. Le Parti socialiste est un parti républicain, mais un parti de classe, un parti de réforme, mais qui les met au service de l'idéal révolutionnaire. C'est ce que d'aucuns reprochent jusqu'en 2014 au Parti socialiste, si je puis dire. Et à côté, vous avez un poids des thèses jaurésiennes qui est très importante, notamment sur la partie ancrage du socialisme dans le républicanisme. Alors ce compromis, dans un premier temps, si vous voulez, formellement au Congrès, on a plutôt l'impression que Guesde a gagné sur Jaurès, en interne au parti, mais dans les combats extérieurs au parti, dans la société française, Guesde est plutôt en perte de vitesse. C'est intéressant parce qu'on voit là aussi les décalages qu'il peut y avoir entre la conquête d'un parti politique et les combats qui vont suivre. Parmi les sujets, encore une fois, y compris ceux qui connaîtront bien à l'époque, me reprocheront peut-être de ne pas avoir tout abordé, il y a une autre grande question, qui est la question du syndicalisme. Alors oui, non, juste quand même une petite incise que je voulais faire sur 1905. Après tout, pourquoi Jaurès a accepté tant de formules avec lesquelles il n'était pas d'accord dans la création du Parti socialiste? Alors d'abord, moi je pense que Jaurès était quand même quelqu'un qui, au contact de Guesde, bien qu'il soit en divergence, s'est plutôt rapproché des thèses marxistes, même s'il en rejette un certain nombre de présupposés, voire de conclusions. Et par ailleurs, il y a quelque chose là que, pour le coup, certains ne voient pas, mais qui est purement de la géographie électorale, lorsque vous travaillez de près. Voilà, les guédistes, je l'ai dit, c'était un groupe très bien organisé, dans un certain nombre de coins, notamment dans le nord de la France. C'était eux qui occupaient le terrain, et la section du nord, c'était à peu près alors, un cinquième, un sixième des effectifs nationaux. Donc vous aviez pas Guesde et les siens. Si vous voulez, vous laissiez sur le côté des gens qui, de toute façon, auraient créé un parti et qui auraient parasité votre espace politique. Qu'est-ce qui se présentait à Jaurès? S'allier aux radicaux? Mais les radicaux, c'était un très grand parti, très fort. Jaurès aurait constitué l'aile gauche, mais il s'est probablement dit « Mais est-ce que, en occupant l'aile gauche de ça, je vais pas être dissous ?» Voilà. Et puis voilà. Et Jaurès, c'est quelqu'un qui... J'en ai moins parlé Guesde, hein, c'est pas l'objet de la conférence, mais Jaurès, je l'ai dit, c'est un professeur d'université, tout ce que vous voulez, mais il était de plus en plus sensible à la condition ouvrière, aux grèves ouvrières. Et il était progressivement sensibilisé à une forme d'approche marxiste que Guesde a développée, sans encore une fois partager tout cela. Donc ça, je voulais juste le dire parce que je ne l'avais pas signalé. Je reviens à ce que je voulais dire donc maintenant, qui est la question du syndicalisme, qui est une des grandes divergences aussi. Le syndicalisme français, comme vous le savez probablement, est pour origine notamment la création de la Confédération Générale du Travail en 1895. Et cette CGT va rapidement, contrairement à d'autres pays, contrairement notamment à l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, définir jalousement son indépendance par rapport au parti politique. Et ce qui va sanctuariser cette notion d'indépendance, bien que ce soit un texte qui soit le fruit d'un compromis un peu complexe, c'est la charte d'Amiens en 1906. Et là, Guesde et les siens sont sur une ligne très dure, qui est que les syndicats, si je puis dire, ça doit être comme être en Allemagne, les syndicats, c'est au service du parti, ça existe, ça défend les revendications élémentaires, mais fondamentalement, Guesde, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font dans le nord de la France, les coopératives, les syndicats, tout ce qui gravite autour du parti, c'est très bien, ça sensibilise les ouvriers à leurs conditions de vie, à un certain nombre de choses, mais c'est le parti qui doit chapeauter tout ça. Alors que le syndicalisme français, notamment la CGT, sera très jaloux de ses prérogatives et détestera les guédistes. Il y aura des pamphlets, Émile Pouget, par exemple, un des grands responsables de la CGT, publiera des brochures, les variations guédistes, si vous voulez. L'équivalent aujourd'hui, ça serait vraiment un florilège de citations de gens qu'on n'aime pas. Donc la haine est extrêmement puissante, et c'est ça aussi qui va faire perdre du terrain à Guesde. Quand Jaurès, lui, qui pourtant n'est pas spécialement proche de la CGT au départ, voit bien que du côté du syndicalisme, il y a des spécificités à ménager, et notamment, Jaurès sera plus sensible à l'idée de grève générale que Guède. Parce que pour Guède, comme tout passe par le parti et par la conquête du pouvoir par le parti et la révolution, même tout ce qui touche à la grève générale est quelque chose qui lui paraît secondaire, superflu, voire dangereux. Il ne faut pas faire de contresens, parce que c'est un peu compliqué, hein, mais Guède est un marxiste d'un certain type, qui va, par exemple, être très virulent contre une certaine extrême gauche à l'époque, qui est plutôt incarnée par le syndicalisme. Alors que Jaurès, qui est plus modéré, va être plus sensible à certaines approches syndicales. En tout cas, quels que soient les entrecroisements, les débats, entre 1905 et 1914, c'est là où Jaurès, l'emblème, c'est le congrès de Toulouse en 1908, mais qu'importe, que Jaurès, sa synthèse entre socialisme et république, cette idée qu'il faut conquérir quand même les pouvoirs publics progressivement, en lien avec un projet socialiste à long terme, mais en abandonnant, si je puis dire, une forme de rhétorique marxiste que Guède incarne, eh bien, cette perspective jaurésienne-là gagne du terrain, et c'est plutôt lui qui emporte la manche. Mais, tout de même, et ça il faut le dire, Guède continue, pour les raisons que j'ai évoquées au départ, un immense orateur, quelqu'un, un tribun, quelqu'un qui a cette légitimité historique unique qui est d'avoir parlé à Marx, ou d'avoir légitimé le premier programme marxiste en France, continue d'avoir des partisans, d'attirer à lui des gens, hein, c'est important, parce qu'il y a des... C'est pas parce que, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, hein, donc on sait que Jaurès va rester plus dans la mémoire ensuite pour toute une série de raisons, mais à l'époque, Guède continue à garder une influence, et si vous regardez les votes dans les congrès, on voit que les guédistes sont de plus en plus minoritaires, mais continuent de peser sans ambiguïté sur les orientations du parti socialiste. J'en veux pour preuve, je prendrai un exemple qui, par ailleurs, est très important pour l'époque et qui fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de fantasmes ensuite dans l'historiographie, qui est le rapport des socialistes à la franc-maçonnerie. Beaucoup de socialistes sont francs-maçons, c'est absolument incontestable. Marcel Samba, qui sera ministre avec Guède justement pendant la Première Guerre mondiale, est l'emblème de ce lien entre socialisme républicain français et franc-maçonnerie. Et il y a eu tout un débat très dur dans les congrès socialistes sur est-ce qu'un socialiste peut-il être franc-maçon ? Alors vous allez me dire quel est le problème. Mais le problème est toujours un peu le même. Le problème, c'est pour les partisans de Guède et autres, être franc-maçon, vous savez ce que c'est la franc-maçonnerie, vous allez côtoyer d'autres gens que des socialistes, des ouvriers, des prolétaires, vous allez côtoyer des bourgeois, la bourgeoisie d'affaires, etc., dont une partie est franc-maçonne. Là où certains socialistes républicains y voient le moyen d'être au cœur de réseaux pouvant éventuellement servir à un réformisme social, les plus révolutionnaires vont refuser cela. Et il y a un débat très dur sur l'appartenance à la franc-maçonnerie, et les guédistes sont battus à deux congrès successifs après 1905, mais j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, ils sont dans le livre, mais ils sont battus pas tant que cela, c'est-à-dire la sensibilité guédiste. Cette espèce d'ouvriérisme, qui là je n'emploie pas dans le terme négatif, l'idée qu'il faut être révolutionnaire, qu'il faut conserver au socialisme français une sorte de pureté originelle par rapport aux institutions républicaines, aux associations républicaines, est une idée qui a toujours une forme d'assise et qui va laisser sa trace durablement. Comme je ne veux pas être trop long, je vais essentiellement parler maintenant de la trace. Je vais quand même dire quelques éléments sur les derniers pas de la vie de Guède, qui sont quand même importants, puisque je l'ai dit au départ de ma conférence. La différence entre Jaurès et Guède, c'est que l'un s'est fait assassiner entre 31 juillet 14 et que l'autre a été ministre un mois après. Alors vous allez me dire, si vous m'avez écouté, comment se fait-il que Guède, qui a clivé avec Jaurès sur la question du ministre en 1899, devienne ministre en 1914? C'est compliqué à suivre. Hein. Alors, bon, les congrès socialistes sont souvent compliqués à suivre, donc ça, c'est on intervertit un certain nombre de choses. Non, mais il y a une logique propre. Bon, Jaurès est mort, on ne va pas faire parler les morts, on peut faire de l'histoire contrefactuelle, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Tous les socialistes, au départ, quasiment tous, en Allemagne comme en France, se rallient à l'Union sacrée, car ils estiment, à tort ou à raison, que c'est de leur devoir que de défendre leur pays en cette heure aussi grave. Et Guède, lui, accepte, il va être ministre sans portefeuille, hein, c'est fascinant, parce que c'est quoi un ministre sans portefeuille? C'est qu'il est ministre, il siège au Conseil des ministres, mais il n'a pas de responsabilité particulière, il est déjà très âgé, il est par ailleurs très malade, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs maladies graves dans sa vie. Il siège au gouvernement pour dire « le socialisme est avec la France au moment de la guerre, y compris le socialisme marxiste, guédiste, etc. » Ça, c'est, il a une valeur de symbole, mais un symbole extrêmement fort à l'époque. Et Guède considère que la France est agressée à ce moment-là. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre de 70, et pour lui, la France envahie par les Allemands, alors que il y a beaucoup de rapports avec les sociodémocrates allemands et autres, eh bien, le temps que la guerre soit terminée, il faut soutenir l'Union sacrée. et ça légitime même le fait de devenir ministre et de mettre entre parenthèses la lutte de classe. Alors, il fait toute une série de contorsions. Alors, je pense qu'il est plus sincère dans son argumentaire, de dire, voilà, tout ce que l'on dit en temps de paix, ça vaut pour le temps de paix, le temps de guerre, c'est la guerre, et donc moi, je me rallie à cela. Alors ça, c'est très important, ce ralliement de Gued à la guerre, pour comprendre la suite. Parce que quand il va y avoir la révolution bolchevique, nous approchons, là, cette fois-ci, pile du centenaire, quand vont se créer des noyaux très hostiles à la guerre, Gued, ce sera l'emblème du socialisme trahi et défiguré. Ce sera celui qui, entre guillemets, vous a fait des leçons de morale marxiste pendant 20-30 ans, et qui, le jour de la guerre, est celui qui a rejoint tous les autres. Et donc tous les mouvements, notamment syndicaux, hein, ceux qui démissionnent de la CGT dès la fin de l'année 14 comme Pierre Monat, pour eux, Gued, c'est la rhétorique révolutionnaire d'un côté, et celui qui devient ministre finalement, in fine, en 14. Donc là, on a déjà un élément qui explique pourquoi il va perdre de sa superbe dans la postérité. Ensuite, il y aura d'autres choix. Et je terminerai là-dessus avant de donner quelques éléments sur la postérité, même si là, encore une fois, ces derniers épisodes sont intimement liés à la postérité. Gued va dans un premier temps être heureux, comme beaucoup de socialistes, qu'il y ait une révolution en Russie en 1917, mais être très hostile et assez rapidement hostile au pouvoir bolchevique. Et là, il va être en porte-à-faux par rapport, y compris, à ses propres camarades. Car parmi ceux qui deviendront certains parmi les figure de proue du premier communisme français, il y a des fidèles de chez fidèles de Gued. J'en ai pas parlé parce que, enfin, il faut gérer le temps, mais Marcel Cachin, qui sera un des hommes clés du premier communisme français, qui sera directeur du journal L'Humanité ensuite jusqu'en 1958, quand L'Humanité va basculer côté communiste. C'était un fidèle, un proche de Gued. Et il dit même, lors de la scission entre socialistes et communistes qui intervient en 1920, il se réclame de Gued, en disant « Moi, je suis fidèle à Gued jusqu'en 1914. Je suis le vrai Guédiste contre le Gued d'aujourd'hui. » Donc, alors, ça devient compliqué de continuer à se réclamer de Gued, parce qu'il est toujours vivant, il est malade, il n'est pas au congrès de Tours à la fin qui décide de la scission entre socialistes et communistes, etc. Donc, il fait le choix d'être hostile aux bolcheviques. Alors, il fait une lettre, à un moment donné, où il essaye de réunifier tout le monde, mais vu le contexte de l'époque, ça n'a plus de sens. Et donc, il va rester un peu, pour certains socialistes, l'emblème du socialisme marxiste, un petit peu raide, et pour les communistes, c'est plutôt l'emblème du traître. Donc du coup, il va être un peu dans un entre-deux qui vont faire que, malgré son importance à l'époque, eh bien, ensuite, il va perdre de sa superbe. Cela étant dit, et je terminerai là-dessus sur cette longue question de la postérité, alors ça fait d'ailleurs partie du contrat, si je puis dire, avec la collection, c'est qu'on évoque la postérité. Bon, Gued va un peu disparaître, effectivement, des radars, si je puis dire, dans les années 1970 et 80. Mais il faut savoir que dans un premier temps, et ça, je l'ai découvert en faisant la recherche, hein, c'est le but, dans les années 20, 30, 40, il reste quand même une figure emblématique et extrêmement respectée. La rupture, pour vous le dire maintenant, c'est plus 68, les années 70, là, il y a la gauche, deuxième gauche autogestionnaire, etc., qui est complètement en porte-à-faux avec cette gauche très partie, voilà, c'est pour le dire simplement. Mais avant, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement respecté. Alors d'abord parce qu'il a deux héritiers, un chez les enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un emblématique chez les socialistes et un chez les communistes. Communiste, je viens de le dire, c'est Cachin. Côté socialiste, c'est Braque. Braque, c'est un traducteur de Marx, c'est un grand helléniste, c'est un intellectuel très très extrêmement fidèle à Gued. Et Braque, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui va contribuer beaucoup à la reconstruction du Parti socialiste après la scission avec les communistes entre deux guerres. Et ce qui est intéressant avec Braque, je prends toujours cet exemple-là dans les conférences pour bien me faire comprendre. En 1936, c'est le premier gouvernement de Front populaire. Léon Blum, le chef du Parti socialiste, est appelé à diriger les affaires, comme vous le savez. Et Léon Blum était directeur du journal du Parti socialiste de l'époque, qui s'appelait Le Populaire. À qui confie-t-il la direction du journal, maintenant qu'il est président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, chef de gouvernement à l'époque? Il a confié à Braque, l'un des plus fidèles lieutenants de Gued. Qui dirige l'Humanité? À ce moment-là, je l'ai dit, c'est Cachin. Donc les deux grands journaux du mouvement ouvrier à ce moment-là sont dirigés par des gens qui avaient été formés purement, si je puis dire, dans le moule guédiste. Autre exemple, et je m'acheminerai vers la fin, en 1945, donc après, encore une étape après, puis entre-temps, Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est Paul Fort, qui était un proche de Gued, qui a mal terminé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait été un reconstructeur du PS entre-deux-guerres, qu'importe. En 1945, le Parti communiste français est le premier parti de France, et surtout le premier parti de gauche, devant la SFIO. Et de façon très furtive mais significative, il va lancer une initiative politique qui vise à réunifier le mouvement ouvrier français. Alors c'était une opération politique que d'ailleurs les soviétiques ont imposée dans les pays de l'Est en faisant des sortes de grands partis ouvriers qui étaient en fait dominés par les communistes. Ça a été tenté en France peu de temps, mais c'est significatif. On a essayé de créer, de recréer le Parti ouvrier français. Et là, c'est passionnant. Vous lisez la presse communiste de l'époque, qui est la presse la plus lue, hein, 45-46, L'Humanité, là, c'est vraiment un journal phare. Et Jacques Duclos, qui a été de fait le chef du PCF pendant la guerre, dit voilà, on va réunifier le mouvement ouvrier français après cette terrible épreuve. Et l'acronyme que l'on va choisir, c'est POF. C'est le parti de 1879. On renoue avec la grande histoire. Et à cette époque-là, la grande histoire pour les communistes, c'est pas tant Jaurès que Guède, parce que Guède, avec tous ses défauts, et le fait qu'il ait été ministre en 14, eh bien, qu'il ait refusé la révolution russe, c'est quand même celui qui avait formé des noyaux marxistes en France, et surtout ce premier parti en contact avec Marx. Donc vous voyez, sur le long terme, Guède a quand même été, a continué à être respecté et autres. Ensuite, pour les raisons que j'ai évoquées brièvement, il a été beaucoup moins valorisé. Il est d'ailleurs ensuite rentré davantage dans l'histoire, c'est-à-dire que les historiens se sont davantage intéressés à cette figure. Et puis, voilà, vous pouvez trouver... Alors, il y a une mémoire différenciée, hein, j'ai eu l'occasion avec ce livre de faire des conférences. Voilà, bon, il y a des endroits où, bon, par exemple ici, le guédisme n'était pas très fort, ça ne veut pas forcément dire grand-chose à grand monde. Mais quand vous allez alors dans l'Aube, par exemple, où le guédisme était extrêmement fort, hégémonique, et où en fait la carte électorale du guédisme a correspondu avec la carte des communistes après, qui sont restés très forts. L'Allié, pareil. Le Nord en partie, alors là c'est divisé entre socialistes et communistes. Bah, par exemple, tout simplement, j'ai fait une petite enquête que j'avais pas terminée pour le livre, peut-être pour un autre article, qu'importe. Les portraits de Guède dans les fédérations des partis politiques sont restés beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que les gens connaissent bien Guède, mais enfin au moins ils voient sa tête toutes les semaines, ils voient à peu près qui c'est. Alors qu'il y a d'autres endroits, il avait complètement disparu.
Avec un look d'ailleurs.
Avec un style, oui, d'ailleurs, vous voyez qu'il a une tête. J'aurais pu faire un long descriptif. D'ailleurs, il était qualifié de Torquemada Lorgnon par ses adversaires, donc pour vous donner ce côté vraiment inquisitorial, si je puis dire. Puis, personnage très spectaculaire dans ses prestations orales, manifestement. Bien qu'évidemment, pour des raisons évidentes, on n'en a pas de traces comme on aurait espéré. Mais ce qui est vraiment significatif, c'est que sa mémoire s'est quand même conservée dans les périphéries, si je puis dire, là où il avait été important, et de temps à autre quand même, dans les polémiques socialistes, c'était Payon en 2014, Guède revient de temps en temps, comme une figure négative. Hein. Je me souviens d'une interview avec Manuel Valls quand il était encore Premier ministre, où il disait que le problème du PS était son surmoi marxiste, et que le surmoi marxiste, ça vient de Guède, et d'une certaine manière, de façon cohérente, il disait ça vient aussi de Jaurès parce qu'il a accepté, encore une fois, d'être avec Guède. D'où le fait que Valls, finalement, préférait Clémenceau, mais ça, on ne va pas épiloguer là-dessus. Bien. Mais en même temps, c'est significatif d'un héritage qui s'est plutôt transmis en négatif. Longtemps, il s'est transmis en positif, mais ça me paraissait important de restituer ce moment-là. Et ça me paraissait d'autant plus important à restituer, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir pour la personnalité de Guède, que tout de même, les débats qui ont traversé l'époque, j'en ai cité quelques-uns, le rapport au syndicalisme, le rapport à la laïcité, à la question religieuse, à l'intolérance, si je puis qualifier ça, de l'antisémitisme, toutes ces questions-là se sont posées pour la première fois au parti de gauche à ce moment clé. Et pour comprendre ces moments clés-là et tous ces débats, même pour leur déclinaison ultérieure, il faut bien évidemment connaître Jaurès, etc., mais je crois qu'il fallait quand même connaître davantage, un peu mieux Guède, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous remercie de votre attention.